Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie. Restez avec nous pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Au début du mois d'octobre dernier, une découverte secoua à la fois le milieu de la recherche historique, mais aussi le monde médiatique français. En effet, le document original de l'État français établissant un statut des Juifs en France fut révélé au grand public. Ce texte inédit, qui date du mois d'octobre 1940, comportait surtout des annotations de la main même du maréchal Pétain. Cette révélation fut aussi l'occasion d'évoquer un personnage peu connu de notre histoire nationale, le garde des Sceaux de l'époque, le ministre de la Justice, Raphaël Alibert. Je vous propose, au cours de cette émission, de découvrir ce personnage qui, dans les premiers mois du régime de Vichy, et seulement dans les premiers mois, eut un rôle politique et juridique non négligeable. Nous le savons, la rupture de 1940 doit plus à la question du pacifisme qu'à une division politique entre la droite et la gauche. Où se situe dans cet échiquier Raphaël Alibert ? Son parcours, son ascension et sa chute sont-ils emblématiques des ministres de Pétain ? Quel fut enfin son rôle dans la rédaction du document que je viens d'évoquer, des questions que nous allons poser à Jérôme Cotillon. Jérôme Cotillon, bonjour.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois à ce micro. Vous avez reçu, il y a plusieurs années, il y a 5 ans je crois, un prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour votre livre « Ce qu'il reste de Vichy », un livre paru chez Armand Collin. Et alors, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes diplômé de Sciences Po, où vous enseignez actuellement, notamment dans le programme d'accueil des étudiants étrangers. Et vous avez organisé très récemment un colloque consacré donc à Raphaël Alibert, juriste engagé, homme d'influence à Vichy, tel est le sous-titre, un ouvrage paru chez Economica. J'allais dire, à première vue, on est étonné d'un tel choix. Un tel choix de colloque. Est-ce fréquent d'abord, tout d'abord, d'aborder la biographie dans les colloques et qui plus est, la biographie d'un personnage qui, vu de l'extérieur, paraît plus que sulfureux ?
Eh bien, permettez-moi d'abord de rappeler que ce colloque a été organisé dans le cadre des activités du Centre d'Histoire de Sciences Po, auquel je rends hommage et qui, je dirais, offre le mérite d'approfondir par un biais un peu inédit la connaissance du régime de Vichy. Vous savez très bien que depuis l'immédiat après Vichy, l'historiographie n'a cessé de s'enrichir sur le mode évidemment des grandes structures, d'un certain nombre de grandes figures du régime de Vichy. Les biographies des principaux acteurs ont été faites. Et il m'a semblé pertinent de continuer sur ce genre biographique qui est assez propre à l'Institut d'études politiques de Paris, en portant la lumière sur des personnages a priori peu connus du grand public, y compris de l'époque, et pourtant dont le rôle, l'importance du rôle n'est plus à démontrer. Et c'est donc une façon de sortir de l'ombre vers la lumière et de parachever ainsi la connaissance du régime de Vichy que de mettre en avant, en évidence, Raphaël Alibert. Je vous assure tout de suite qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'actualité que vous venez de décrire et naturellement l'organisation de ce colloque et la publication de ses actes.
C'est une particularité de votre œuvre, que cela soit votre livre, Ce qu'il reste de Vichy, qui étudie vraiment en profondeur ces personnages, mais aussi à l'occasion de ce colloque, de voir des noms peu connus. Votre intervention au cours de ce colloque met en avant une douzaine, je crois, si mes souvenirs pour son bon, de personnages qui font partie de cette administration et qui permettent de mieux connaître de l'intérieur un régime sur lequel on apporte plus facilement des nuances.
Alors, je crois que c'est peut-être une déformation, sinon professionnelle, du moins personnelle, mais mes travaux et mon inclinaison personnelle me portent vers l'étude des entourages politiques, dont je maintiens qu'à partir du milieu du XXe siècle, le régime de Vichy pouvant peut-être, pourquoi ne pas en parler, marquer un tournant de ce point de vue, ces entourages politiques commencent de jouer un rôle et de capter la réalité de la prise de décision. Et en effet, dans cette somme de communication, à travers la mienne, j'ai souhaité mettre en valeur, à travers Raphaël Alibert, également le choix des équipes, de ses entourages, parce que je crois que du choix des entourages dépend très largement les idées premières d'un ministre, la volonté de s'entourer d'hommes sûrs, capables, susceptibles de mettre en œuvre justement cette politique, et que dans un second temps, la présence de ces entourages signe également une évolution plus générale au temps long, qui est la professionnalisation du personnel politique et particulièrement du personnel entourant. Du reste, une des premières mesures prises par le régime de Vichy sous la plume d'Alibert va être de fixer un statut aux membres de cabinet ministériel. Cela peut sembler étrange dans les conditions de la défaite et de l'avènement d'un nouveau régime.
On va peut-être commencer par le commencement. Le colloque étudie toutes les facettes de ce personnage, toutes les grandes facettes de l'homme de Raphaël Alibert. Raphaël Alibert reste avant tout un professeur. Il a plusieurs vies, il a trois vies professionnelles, mais c'est d'abord le professeur de droit.
C'est d'abord le professeur de droit, c'est d'abord l'homme de droit au sens large du terme. Je voudrais rendre justice à l'organisation de ce colloque. Évidemment, l'on aborde la totalité de la vie professionnelle publique du personnage Raphaël Alibert. C'était une journée dont une moitié était consacrée à l'avant-Vichy et l'autre moitié intégralement à Vichy. Donc l'apparent déséquilibre éditorial ne doit pas masquer le strict équilibre de la journée. Raphaël Alibert est évidemment le professeur de droit que vous dites, et à ce titre, durant l'entre-deux-guerres, c'est une de ses figures, un de ses personnages qui compte dans la formation des élites juridiques. Il est professeur de droit, signalons-le, à l'École libre des sciences politiques.
Il sera même primé par l'Académie des sciences morales et politiques.
Il sera même primé pour la publication d'un livre qui a fait date sur le contrôle juridictionnel de l'administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, qui est un livre qui a fait date bien longtemps et bien après la guerre, par ailleurs. Oui. Professeur de droit, il l'était. J'ajoute qu'il était également conseiller d'État, ce qui démontre qu'il avait une pratique professionnelle du droit, si j'ose dire, et une pratique pédagogique du droit.
Est-ce que c'est un personnage qui, derrière le juriste, est-ce que l'on peut trouver le politique ?
Ah, on le trouve très vite, très rapidement. On le trouve même avant qu'il ne devienne explicitement juriste, puisque dès 1904, Raphaël Alibert, dont les convictions, peut-être ferons-nous un portrait plus idéologique et politique du personnage, dont les convictions monarchistes, il faut le dire, et catholiques, l'ont conduit à participer à la résistance lors de la querelle des inventaires, ce qui lui a valu à cette occasion d'être interdit pour quelque temps de présenter des concours d'accès à la haute fonction publique, l'occurrence au Conseil d'État.
Oui. Alors, je cite le professeur Machelon, Jean-Pierre Machelon, qui est professeur à l'Université René Descartes Paris 5, qui a participé donc à ce colloque. Il est également directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Non seulement il s'insurge contre la tyrannie des assemblées, mais il milite pour une rupture avec ce qu'il nomme, avant de Gaulle, le régime des partis. En lisant, enfin sans vouloir, je l'espère, déformer le propos de M. Machelon, on sent des prémices même de la Ve République dans sa pensée.
Dans la mesure où le renforcement d'un exécutif au détriment d'une logique de parti, voire de parlementarisme, est ici évidemment à l'honneur chez Alibert, on peut toujours, quitte à devoir trouver à toute force une comparaison, oser celle-ci. Mais pour revenir à ce que vous me demandiez sur la nature politique de l'engagement juridique de Raphaël Alibert, il a toujours eu à l'idée, à l'esprit, que le droit n'était que le complément indispensable à l'action politique et n'était pas quelque chose hors politique. Du reste, la nature de ses recherches lorsqu'il était étudiant, lorsqu'il préparait sa thèse en droit, thèse que le professeur Machelon qualifie d'énergiquement argumentée, je vous laisse deviner à quoi il fait allusion, cette thèse portait déjà sur les syndicats, associations et autres coalitions de fonctionnaires. Donc il traque, à travers une étude juridique, l'articulation qu'il peut y avoir entre le politique, la politique, si l'on veut, et l'administration, qui sera un de ses grands sujets de réflexion, question qui fait passim tout au long des différentes étapes de sa vie et de ses différentes fonctions.
Oui, oui. Alors, je passe à la communication suivante de Gilles Lebéguec. Lebéguec, donc, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nanterre Paris 10, une intervention intitulée « Un juriste en quête de rôle politique ». Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette intervention, c'est que Gilles Lebéguec tient à effacer quelques légendes du personnage.
Alors, la communication de Gilles Lebéguec, qui est un éminent spécialiste de la prosopographie parlementaire et politique, un grand connaisseur de la Troisième République, et particulièrement de l'entre-deux-guerres, l'immense mérite de cette communication, et à travers, et c'est peut-être le mérite également du genre biographique, c'est qu'à travers un homme, on parvient à mieux saisir les enjeux d'une époque, c'est d'arriver à montrer combien Alibert peut s'apparenter à un profil d'homme impliqué dans la vie des idées, dans ce contexte bouillonnant des années 30 et même pas simplement des années 20 également, où la grande question, la grande affaire qui va faire irruption dans les débats publics, dans ce qu'on appelait l'esprit public à l'époque, est la réforme de l'État. Et cette question de la réforme de l'État, à tous les niveaux, va se décliner dans à peu près tous les cercles de pensée, des cercles non conformistes aux cercles beaucoup plus technocratiques. Je vous rappelle que la gamme de ces endroits, de ces lieux où l'on cherche des solutions alternatives, la gamme est large. Et Alibert, de ce point de vue, témoigne parfaitement de cette tendance, de ces parcours de l'époque. Et parmi ces parcours, l'un des points communs est à un moment ou à un autre la recherche d'un engagement politique, alors soit sur le plan des idées, soit sur le plan de la politique partisane. Tentative que Raphaël Alibert osera, avec un revers électoral dont il conviendra peut-être de mesurer le poids sur sa propre trajectoire.
Alors justement, un des aspects passionnants de cette intervention, donc, c'est que l'on commence à mieux comprendre ce personnage, en tous les cas sa psychologie, une certaine instabilité, surtout une incapacité d'aboutir. Je me permets de citer donc Gilles Le Bécquec. Il écrit « Pour recourir à un langage encore plus métaphorique, on est ainsi tenté de dire que ce brillant sujet » donc on ne renie pas cet aspect, ce brillant sujet sûr de lui et de son talent, a manipulé toute une série de clés sans vraiment trouver les bonnes serrures et en restant souvent à une certaine distance de la porte.
Alors je crois qu'il faut vraiment s'attarder sur cette formule parfaitement bien sentie de Gilles Le Bégec, parce qu'il y a beaucoup à dire sur tout cela. De Raphaël Alibert, si l'on veut commencer d'esquisser un portrait psychologique, encore que l'on touche là aux limites du rôle de l'historien, de Raphaël Alibert, on peut dire qu'il a assurément énormément de suite dans les idées pour ce qui relève de ses convictions personnelles et des projets qu'il souhaite voir aboutir, mais que les moyens de les mettre en œuvre évoluent sensiblement au gré des événements et sans doute d'une personnalité que je qualifierais publiquement de tourmentée. C'était un homme caractériel, assurément, sûr de son talent, et de fait, il est parmi, en tout cas dans les années 20, parmi les meilleurs professeurs de droit constitutionnel, avec quelques autres, Joseph Barthélemy ou Achille Mestre sur la place de Paris, parmi les meilleurs professeurs de droit. Il se comptait certes sur les doigts d'une main, mais il n'en était pas la moindre phalange. Et ce Raphaël Alibert, si vous voulez, effectivement, avait plusieurs cordes à son arc, si vous me permettez une autre métaphore, mais a changé de cible assez régulièrement, non seulement de cible, et peut-être même d'arc. Il a essayé successivement, je vais essayer de démontrer aussi son caractère instable, par le biais de ses activités au Conseil d'État, de peser, bon, par insatisfaction personnelle et, comment dirais-je, par prise de conscience des limites assignées au rôle d'un conseiller d'État pour peser sur les choses publiques, il en démissionne en 1924, alors qu'en général, une belle carrière est tout tracée quand on entre au Conseil d'État. Il se risque par la suite au monde des affaires, où il entre, et vous comprendrez la façon dont mon propos rejoint à nouveau, non seulement ce que dit Gilles Le Bégec, mais la question de ces cercles de réflexion et de pensée des années 20 et 30. Il rejoint le groupe d'Ernest Mercier, qui, indépendamment du chef, du capitaine d'industrie qu'il était, n'en était pas moins l'animateur de ces grands mouvements bouillonnants d'idées autour de la réforme de l'État qui a été le redressement français dans les années 20 et surtout 30. Par ailleurs, Raphaël Alibert accepte, pensant trouver là une tribune, de professer à l'École libre des sciences politiques. Et il est intéressant, Jean-Pierre Machelon le développe bien, de voir quelle est la nature comme le contenu de ses cours. Il s'intéresse notamment aux autres régimes européens qui sont en cours dans les années 20 puis les années 30. Le régime fasciste italien retient toute son attention. Il se hasarde assez régulièrement à des comparaisons souvent peu flatteuses pour la Troisième République avec le régime mussolinien, sans être fasciste par ailleurs. Et plus tard, il continuera d'examiner l'exemple français à la lumière, un peu tardive au regard des années 30, de l'expérience franquiste et surtout salazariste, dans lequel il puisera toute une réflexion sur le corporatisme. Alors voyez, en l'espace d'un entre-deux-guerres, Raphaël Alibert, effectivement, qui est qualifié après la guerre de mauvais génie, la part de génie juridique chez lui existe, la part de mauvais est tout aussi importante. Aurait essayé, comme le dit Gilles Le Bégec, fort de ce qu'il croit être des arguments très empreints de maurrasisme, d'ouvrir un certain nombre de portes, mais naturellement, qui ne s'ouvrent pas d'un tour de clé, qui s'ouvriront plutôt à coups de bélier.
Alors justement, quelle est la place du maurrasisme dans l'action de Raphaël Alibert? C'est ce que nous allons voir, Jérôme Cotillon, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde de Berlin à Pékin. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry de Montbrial, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il dresse une analyse de l'évolution des relations internationales, 20 ans de transition pour comprendre les fondements du siècle qui s'ouvre. 1989-2009, 20 ans qui bouleversèrent le monde, de Berlin à Pékin, une émission Éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Raphaël Alibert, qui était garde des Sceaux dans les premiers mois du régime de Vichy. Et je reçois Jérôme Cotillon, qui a dirigé un colloque organisé à Sciences Po, donc sur Raphaël Alibert, juriste engagé et homme d'influence à Vichy. Les actes du colloque ont été publiés chez Economica. Alors, il y a un point important dans la pensée d'Alibert, c'est son engagement, on va dire, maurassien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est Frédéric Rouvillois, donc professeur agrégé de droit public à l'université René Descartes Paris 5, qui se pose la question. Raphaël Alibert, maurassien, point d'interrogation. Et il met un point d'interrogation parce que maurassien, il le dit, et Rouvillois le dit, maurassien entre deux guerres, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a eu tellement de maurassiens, tout le monde, Rouvillois dit même à un moment, tout le monde a été un peu maurassien une fois dans sa vie, surtout à cette époque. Alors, est-ce que ce n'est pas une étiquette facile ?
Une étiquette facile, je ne crois pas. En tout cas, notons tout d'abord que si Raphaël Alibert est maurassien, et totalement maurassien, je vais y revenir comme je le crois, c'est à peu près le seul maurassien à avoir exercé des fonctions gouvernementales dans toute l'histoire du maurassisme. Puisqu'à ce titre, au titre de garde des Sceaux, il était le seul, au fond, à occuper, tout en se revendiquant pleinement du maurassisme, j'ai bien dit du maurassisme, à Vichy, le seul à occuper des fonctions de décision importantes. Alors maurassien, étiquette facile... Non. En tout cas, étiquette facile, sans doute peut-être parce que le maurassisme recouvre un champ, si vous voulez, d'opinions, de traditions, de points idéologiques si vastes, à l'image de la plume proliférante du maître de Martigues, lequel se contredisait parfois. Chacun peut y trouver sa chapelle. Mais à bien des points, Alibert est maurassien. Il l'est sur le plan des institutions, de la vision qu'il a des institutions, d'un exécutif fort et pourquoi pas d'un rétablissement monarchique. Il est également sur un certain nombre d'idées tendant à l'organisation de la vie économique et sociale, et j'en veux pour preuve une qui me semble fondamentale, qui est celle naturellement de la question de l'organisation corporatiste de la société, qui est en gros la traduction du maurassisme dans le champ politique, économique et surtout professionnel et social. Donc de ce point de vue, et ce sont quand même les deux poids lourds du maurassisme, il y répond clairement. Ensuite, sur le plan strictement idéologique, le nationalisme fermé, Maurras était évidemment l'inspirateur et le principal promoteur, comme l'antisémitisme intégral, ne sont pas du tout... permettrait cette presque litote, ne sont pas du tout absents de la réflexion de, et même du propos, voire de l'action de Raphaël Alibert. Donc il y a bien des égards qui ne sont pas les moindres, il est pleinement maurassien.
Mais alors, Rouvillois fait bien une distinction entre maurassisme et fascisme. Il présente d'ailleurs les termes d'Alibert sur les trois faiblesses fondamentales du fascisme pour Alibert, la personnification du régime, la centralisation à outrance et la suppression totale de la liberté individuelle. D'ailleurs, des caractères que l'on retrouvera plus dans le communisme d'ailleurs que dans le maurassisme. Il y a un autre point important, c'est au fond, c'est la question allemande, et Dieu sait si elle est importante. Est-ce qu'Alibert est germanophobe, comme Maurras était germanophobe ?
Il est intégralement germanophobe, je vais vous en dire un mot tout de suite. J'aimerais simplement sur le maurassisme, comme le rappelle très bien Frédéric Rouvillois, comme autre chose radicalement autre que le fascisme, le maurassisme est avant tout dans l'esprit d'Alibert, et je l'espère dans l'esprit de Maurras, affaire d'histoire nationale et de révision d'une sorte d'histoire nationale. Dans l'esprit d'Alibert, ce qui importe avant tout, c'est la liquidation de deux héritages révolutionnaires. Alibert est avant tout un contre-révolutionnaire, donc on est bien loin de toute personnification de pouvoir, de tout régime total. Il s'agit de revenir évidemment sur la Révolution française et ce qu'elle a été porteuse, selon lui, de libéralisme et d'individualisme, si vous voulez, de libéralisme y compris économique et politique, et d'individualisme forcené. Et plus proche de cette époque, évidemment, revenir sur l'autre révolution qui est celle du Front populaire. Quant à la question de la germanophobie de Raphaël Alibert, il est assurément germanophobe. Du reste, son sort sera scellé, enfin son sort et son départ du gouvernement de Vichy, en grande partie par les Allemands, mais en plus grande partie encore par ceux-là même qui, dans les équipes de Darlan en 1941, soucieux de mettre en œuvre une politique de collaboration, voit en Alibert quelqu'un qui ne suivra pas cette politique de collaboration. Notez que sur le plan de la vie personnelle de Raphaël Alibert, il est issu certes d'une famille enracinée pour trois des quatre quartiers de ses aïeux dans le Grand Sud-Ouest, terre de droit du reste, le Lot, Lot-et-Garonne, mais pour un dernier quartier, il descend directement d'un quart lorrain, mosellan plus exactement, de sa famille, qui a opté au lendemain, au terme de la guerre de 70, qui a opté pour la France, et donc qui a été chassé, en quelque sorte, ou qui a eu la possibilité ultime de choisir la France plutôt que l'Allemagne. Donc, ajoutez au mot racisme d'Alibert cette dimension germanophobe, très anti-allemande. Du reste, comme garde des Sceaux, il mettra un point d'honneur dès juillet 40 à surveiller directement pour lui-même la question des Alsaciens et des Mosellans. Il se chargera même à Lyon d'accueillir les Mosellans chassés par l'Allemagne ayant réannexé, comme vous le savez, les territoires qui leur avaient été retirés en 1918.
C'est le seul d'ailleurs à protester, hein. C'est ce que dit Bénédicte Vergé-Chaignon, donc docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris, qui intervient au cours de ce colloque. Elle écrit « Même après Montoire et après le discours de Pétain du 30 octobre dans lequel le chef de l'État revendique explicitement le choix de la collaboration, Alibert ne comprend pas. La preuve de son incompréhension se fait éclatante le 6 novembre quand, accueillant en gare de Lyon-Perrache les Lorrains que le Grand Reich vient de chasser de chez eux, il s'exclame leur expulsion est la conséquence de Montoire. » On retrouve là encore l'idée, hein, il ne comprend pas, on retrouve l'idée qu'il a des clés mais il n'arrive pas à ouvrir les portes. Et est-ce qu'il y a un certain manque de lucidité sur la réalité de ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y aurait une différence entre en tous les cas une différence de vision entre le juriste d'une part et la réalité des événements.
Vous évoquez la communication de Bénédicte Vergès-Chaignon et pour répondre à votre question, je crois qu'il y a chez Alibert, dans ce segment, on est évidemment au mois de novembre, si l'on fait une chronologie fine de l'influence d'Alibert, on constate qu'il est déjà sur le déclin. Mais je ne pense pas qu'il y ait dans son esprit une disjonction à faire entre la perception juricisante qu'il a de la réalité et la réalité elle-même. Je crois plutôt que les événements vont un peu plus vite que ce qu'il est capable d'en comprendre. Vous aurez noté, et peut-être qu'en creux, ce colloque tord le cou à une autre idée, qu'il était un chaud partisan de l'armistice et que, pour autant, il était hostile à la collaboration. Or, beaucoup d'historiens ont eu tendance à lier, dans une sorte de mécanisme presque nécessaire, l'idée que le pacifisme conduisait à l'armistice, lequel armistice à la collaboration. Non, on peut être pour des raisons, d'abord parce que la forme juridique de l'armistice est un moindre mal vis-à-vis de la capitulation, c'est ainsi qu'il l'entend, mais qui n'implique pas nécessairement dans l'esprit d'Alibert cette collaboration avec l'Allemagne. Mais je crois qu'il a peut-être, si vous voulez, une vision beaucoup trop légiste de la réalité, ce qui, évidemment, en période d'imprévisibilité des événements et parfois d'emballement de la chronologie, donne le sentiment d'un homme à la peine.
Alors, quel fut son rôle à Vichy de juin 40 jusqu'à son éviction, hein, en janvier 1941 ? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée donc à Raphaël Alibert, qui fut garde des Sceaux dans les premiers mois du régime de Vichy. Raphaël Alibert, juriste engagé et homme d'influence à Vichy, tel était le titre du colloque organisé à Sciences Po sous la direction de Jérôme Cotillon. Les actes du colloque ont été publiés chez Economica. Alors Jérôme Cotillon, ce qu'il y a d'étonnant, c'est, et j'en ai été vraiment surpris, c'est qu'on peut se dire que le monde politique de Vichy est un monde qui ne bouge pas. Or, les ministres bougent, vont, viennent, s'en vont, reviennent. Et Alibert, il reste moins de 7 mois, au fond. Quel fut son rôle à l'occasion de ces 7 mois ?
Oui, il est un peu comme la danseuse romaine. Il est passé, il a déplu. Son rôle a été extrêmement bref, extrêmement important. On peut, sur les 7 mois où il a été officiellement garde des Sceaux, isoler et même mettre en relief la période estivale, si j'ose dire. Juillet, même juin, avant même Vichy, juin, juillet, août 40, Alibert est sans doute le personnage le plus important, la pierre angulaire de l'édifice vichyste. Et important par la nature même de ses attributions, parce qu'après tout, quand on fonde un nouveau régime, il semble à peu près évident qu'un garde des Sceaux ne sera pas là à contempler passivement son édification. Important par la nature même de ses fonctions et important naturellement par l'extension prise de son périmètre ministériel qu'il ne va cesser de vouloir dans un premier temps élargir et dans un deuxième temps après, à l'automne 40, qu'il ne va laisser de vouloir défendre comme un précaré en réalité alors qu'on cherche à lui retrancher un certain nombre d'attributions. Je vous ai dit juin 40 pour dater l'importance de son rôle car Alibert ne tombe pas du ciel en juillet 40. Notons d'abord pour le relier à son avant-guerre, qu'Alibert témoigne d'une expérience étonnante, du reste, de membre d'un cabinet ministériel durant l'année 18, juste avant la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, comme un rejeu, comme un écho ironique, se concrétisent les liens qu'il a tissés avec Pétain, qui sont assez anciens dans l'ensemble, qui ne sont pas forcément très intimes, mais qui se comptent en années. Il intègre le cabinet du maréchal Pétain, vice-président du Conseil, au printemps 40, lequel Pétain, devenu président du Conseil, en fait son secrétaire d'État à la présidence du Conseil, et le nomme garde des Sceaux en juillet 40. Donc, c'est un homme qui témoigne d'une expérience ministérielle et surtout d'une vision précise de ce que doit être le nouveau régime qui arrive en juillet avec tous les pouvoirs élargis que je vous ai dit, dont il faut peut-être examiner la nature.
Est-ce qu'on peut en faire, à un moment, je crois que l'expression d'ailleurs est de Madame Vergé-Chaignon, est-ce qu'on peut en faire une sorte de père de la constitution de Vichy, si tant est que l'on puisse parler de constitution de Vichy ?
Les actes constitutionnels, à défaut de pouvoir parler de constitution de Vichy, les actes constitutionnels sont intégralement rédigés par Raphaël Alibert. Il se défaussera du premier acte en expliquant qu'il l'a rédigé sous la dictée du maréchal Pétain. Reste à savoir si cette dictée du maréchal Pétain, prise par le scribe Alibert, n'a pas été précisément soufflée à Pétain par le dit scribe Alibert. En tout cas, l'architecture, la mise en place des pouvoirs, je pense notamment aux articles 4 et 5, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, l'important sur l'organisation de la succession du maréchal Pétain, sous une forme de delphinat, comme on dit, et vous voyez à quel type de régime ça peut s'apparenter de désigner un successeur, ou l'article 5 visant à mettre en place une Cour suprême de justice et donc à juger les responsables réels ou supposés de la défaite, ont tout droit été tracés par la plume d'Alibert. Donc il est un, si j'osais au sens strict, le constituant du régime de Vichy, l'élément qui met en place, qui habille juridiquement ce régime et qui va faire en sorte effectivement que ce régime de Vichy respecte formellement la légalité et offre à Pétain une apparente légitimité. Donc il est de ce point de vue, il est l'homme qui pense Vichy sur le plan de ses actes constitutionnels.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'au-delà de cet investissement juridique, vous le montrez, alors vous personnellement au moment du colloque, c'est un personnage qui intervient quasiment sur tous les sujets. C'est le titre d'une de vos parties, un interventionnisme tous azimuts dans les domaines politiques les plus divers. Au-delà de son action corporatiste que vous avez rappelé et qui a une place vraiment importante, il est partout.
Il est partout. Il s'octroie, au risque de produire un anachronisme, mais pour donner une idée un peu plus juste de ce qu'il est, il s'octroie les pouvoirs d'un véritable ministre d'État, c'est-à-dire qu'il entend pouvoir intervenir dans absolument tous les domaines, aussi bien dans l'ordre de l'action gouvernementale que dans l'organisation générale des pouvoirs. Parce que, je reprends la formule de Marc-Olivier Baruch, Alibert, les premières semaines du régime de Vichy, vis-à-vis de Pétain, est à la fois à table et au bureau. C'est-à-dire qu'il est de toutes les grandes décisions, enfin, décisions visibles, si vous voulez, législatives, et de toutes les petites combines, toutes les combinations de l'arrière-cour des coulisses vichistes. Et de ce point de vue, son rôle dans les entourages et en termes d'influence auprès du maréchal Pétain, puisqu'il y a deux façons de peser finalement sur les régimes de Vichy, par les canaux officiels, c'est-à-dire par le biais de la loi, et par les canaux officieux, c'est-à-dire par le règlement d'un certain nombre de nominations ou autres qui sont là dans le domaine aussi palpitant que pas nécessairement bien connu du rôle des entourages.
Alors venons-en justement à ce fameux statut des Juifs. Ce statut, alors d'abord il s'agit du premier statut, hein, c'est bien cela. Il y en aura un deuxième ?
Oui, un deuxième suivra 14 mois plus tard.
Quel est le rôle d'Alibert puisque c'est une loi ? En conséquence, on l'associe au ministre qui est en place et il est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Quelle est son intervention, la mesure de son intervention dans ce statut ?
Écoutez, c'est sans doute l'un des principaux apports de ce colloque, et je rends hommage à la communication de Laurent Joly. Son rôle, finalement, est bien moindre, mais je vais justifier ce moindre, qu'il n'y paraît. C'est peut-être même le grand échec de Raphaël Alibert que de ne pas être parvenu à être l'auteur, le père biologique, en tout cas juridique, de ce premier statut des Juifs. Bon, d'abord, son rôle comme garde des Sceaux, il y a pris sa part dans la rédaction, dans le contre-saint, etc. Mais je dirais que c'est un statut qui ne distingue pas particulièrement, paradoxalement, le rôle d'Alibert à Vichy, l'importance du rôle à Vichy. C'est une entreprise collégiale, collective, que vient corroborer, voire couronner en quelque sorte la vraie fausse découverte, enfin le vrai faux scoop contenu dans la découverte de l'archive dont tout porte à laisser dire, du reste, que cette archive émane des papiers Alibert eux-mêmes.
C'est une certitude ?
C'est une quasi-certitude. Vous pensez bien que dans le cas contraire, je ne me serais pas permis de tenir pareil propos. Mais peut-être on va laisser ça pour un peu après et revenir un instant à ce statut. Alibert, effectivement, de son côté, dès août 40, dans cette espèce de frénésie législative, je vous rappelle qu'il produit 15 lois de nature idéologique, qui ne sont pas les moindres, dont 9 durant cet été brûlant pour Alibert. Il produit des lois d'exclusion, de moralisation de la vie politique. Le 12 juillet, l'interdiction à tout non-français d'entrer dans un cabinet ministériel. Le 16 juillet, le projet de déchéance de la nationalité. Le 22, la révision des naturalisations. Le 23, la déchéance des Français ayant fui à l'étranger. Le 30, la mise en place de la Cour suprême de justice, etc. etc. Donc, dans cet emballement répressif, exclusif, moralisateur, Alibert, avec son fidèle conseiller Pierre de Fonréau, établissent dans leur coin, sans que personne leur ait demandé, du reste, fidèles à leur moracisme en cela, un statut des Juifs, lequel statut des Juifs se proposait, les archives sont formelles, d'exclure, de déchoir de leur nationalité, de mettre à l'écart de la vie publique et même la citoyenneté française, l'intégralité des Juifs résidant en France, y compris les Juifs français. Or, lorsque l'on examine le statut adopté en octobre 1940, on est quand même loin du compte. Et on est loin du compte parce que lorsqu'Alibert a commencé de faire circuler son projet qui est le reflet en cela parfaitement fidèle à la pensée de Maurras, ça a reçu dans l'entourage de Pétain et au sein du gouvernement un accueil tout à fait défavorable. Donc ce statut sera néanmoins pour devancer en quelque sorte d'hypothétiques demandes allemandes, sera quand même mis sur papier, mais essentiellement par Marcel Perrouton, qui était franc-maçon par ailleurs, et radical, à qui l'on a demandé de rédiger un statut un peu plus subtil, si je veux dire, en tout cas pointant des catégories beaucoup plus précises. Donc ce n'est pas le statut d'ensemble qu'Alibert avait proposé qui restait dans les cartons. Vous savez, Dumoulin de la Boartette disait à propos d'Alibert, Raphaël peint à la fresque. Donc c'est un homme évidemment qui voyait grand et large en matière d'exclusion et de dénaturalisation. Donc ce projet, finalement, le principe en est acté, la version Alibert est totalement laissée de côté. Bon, Alibert évidemment est là puisqu'il est garde des Sceaux, il devra un moment ou un autre apposer ses signatures, mais c'est un travail d'équipe, si j'ose dire. Et de ce point de vue, quand je parlais de vrai faux scoop, la signature, d'abord c'est un vrai faux scoop parce que Pétain a signé ce document et à ce titre est comptable jusqu'à la moindre virgule de ce document. Quant aux annotations, pour peu qu'une analyse graphologique le confirme, mais partons de l'hypothèse que c'est bien l'écriture de Pétain, on retrouve l'antisémitisme de Pétain qui n'est pas exclusif du reste d'une certaine considération, puisque les annotations le signalent, pour un certain nombre de cas dérogatoires, pour un certain nombre de Juifs, notamment ceux ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est plausible d'attribuer, d'imputer ces annotations à Pétain. Alors voulez-vous que je vous dise un mot de ce document et de sa provenance quasi certaine, ce qui nous permettra peut-être d'aller à la postérité de Raphaël Alibert. Raphaël Alibert a eu pour principal défenseur, après la guerre et jusqu'à il y a peu, un fils aîné, Jacques Alibert, qui avait assisté du reste à la tenue de ce colloque. Et pour étudier la suite et la fin de l'histoire à partir de 1944, Alibert savait très bien qu'à la libération, il aurait des comptes à rendre. Il a donc préféré fuir, provisoirement en tout cas, en Belgique, où les conventions d'extradition le mettaient partiellement à l'abri. De toute façon, il était parti sous une fausse identité. Si bien que lorsque les procès à la Haute Cour de justice se sont tenus, les absents ayant partout et en tout temps tort, beaucoup se sont défaussés sur Alibert parmi les personnes comparaissant devant la Haute Cour de justice, et on en est arrivé à cette version commode pour tous, qu'il s'agissait du statut Alibert, en quelque sorte. Ce statut Alibert, évidemment, Raphaël Alibert s'étranglait devant cette paternité qu'il ne reconnaissait pas, puisque précisément ce n'était pas son statut. Ça lui a valu d'être condamné à mort par contumace. Et après l'amnistie dont il a bénéficié en 58 et pour les quelques années qu'il a encore vécu, il n'a laissé de proclamer son étrangèreté, si je veux dire, à ce statut. Parole relayée par son fils qui vient de décéder, qui est mort il y a maintenant 3 mois, je crois. Et un certain nombre de papiers conservés par le fils Alibert, qu'il montrait selon les cas de figure, dans l'intérêt de la mémoire de son père, ces papiers ont été dispersés. Et si vous voulez, la concomitance entre la disparition du fils Alibert et l'apparition publique de ce document laisse à penser que la descendance Alibert faisait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire effectivement dédouanait à la fois Raphaël Alibert d'une paternité unique de ce statut et en démontrer précisément le véritable auteur, les auteurs collectifs, c'est-à-dire faisait se déplacer le balancier de la responsabilité, le fléau d'Alibert vers Pétain. Donc évidemment, c'est une parution, une exhumation, une apparition à tout le moins troublante dans la concomitance de cette apparition et de l'événement que je viens de vous décrire, la disparition du fils.
Jérôme Gauthier, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Ce qui ressort, et au fond, ce que vous venez de dire sur la protestation à propos de son implication sur le statut des Juifs, est assez révélatrice parce que, encore une fois, c'est un personnage qui paraît presque effacé, qui n'ose pas se mettre en avant, qui n'ose pas rétablir sa réputation, qui n'ose pas aller de l'avant.
Il n'est pas effacé, tout dans son tempérament et son caractère en font un personnage tranché, assez égocentrique, mais face, si vous voulez, au jugement commode retenu par l'histoire d'immédiate après-guerre, face notamment au jugement rendu par la Haute Cour, face à la relative indignité morale, en tout cas, dont il continuait de méjouir malgré son retour en France en 1959, je crois qu'il disparaît en 1965, face finalement au peu de notoriété de ce personnage aussi dans la mémoire collective, les chances de voir ses protestations de bonne foi ou d'innocence sur cette question, ou en tout cas d'irresponsabilité, avaient peu de raisons d'aboutir véritablement et de marquer, de redresser, si vous voulez, l'opinion publique à son sujet. Non seulement parce que homme de l'ombre,
oui,
dans la mémoire, il est resté, homme ombrageux, il était par ailleurs. Et évidemment, l'histoire aime moins les seconds rôles, la mémoire aime moins les seconds rôles, sauf lorsqu'ils sont un peu sulfureux, ce qui est le cas de ce personnage assurément, que les personnages de premier plan. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a opté pour la forme d'une journée d'études, d'un colloque, car il est peu probable qu'éditorialement, sous la forme d'une monographie à un seul auteur, chacun ayant sa spécialité parmi les contributeurs, autant d'éléments novateurs ne seraient sortis des archives et que par ailleurs cela aurait trouvé un public qualifié.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme Cotillon d'être venu au micro de Canal Academy pour présenter donc les résultats de ce colloque. Raphaël Alibert, juriste engagé et homme d'influence à Vichy chez Economica. Je rappelle les références aussi de votre ouvrage primé, Ce qu'il reste de Vichy, donc primé par l'Académie des sciences morales et politiques, paru chez Perrin. Je cite également Servir l'État français, qui est un ouvrage indispensable de Marc-Olivier Baruc, donc paru chez Fayard. Et enfin, nous avons cité Bénédicte Vergé-Chaignon. Et il y a un livre incontournable, Les Vichysseaux résistants de 1940 à nos jours, un ouvrage paru chez Perrin qui montre que la difficulté de l'analyse et les nuances qu'il faut apporter dans notre analyse historique sur cette période ô combien difficile. Merci beaucoup Jérôme Cotillon.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.